a dream. I have a dream. I have a dream.
My definition, my definition, my definition is this, my definition, my definition, my definition, my definition is this.
I have a dream.
Et bonjour escapadiens, escapadiennes, heureuse de vous retrouver dans le royaume de l'intermédiaire. Ah, au 104.1, au 102.0 et au 103.3. Alors avec cette chaleur, j'espère que vous êtes à l'ombre, à vous siroter quelque chose de bien frais. Et voilà maintenant le thème qui va clôturer la saison avant l'été. Évidemment, un thème récurrent, c'est pas la première fois que j'en parle. Évidemment, c'est l'au-delà. Il n'y a pas mieux comme royaume de l'intermédiaire que l'au-delà. Je vais commencer par deux belles citations, celle de Virgile avec Félix qui potui rectum rocciosere causas, c'est-à-dire heureux celui qui a pu pénétrer les causes secrètes des choses. Et je continue avec Mahatma Gandhi. Si un homme atteint le cœur de sa propre religion, il atteint également le cœur des autres religions. Alors qu'est-ce que c'est qui m'amène à tout cela ? C'est en fait un livre, un superbe livre, écrit par Jeanne Moranier, qui n'est autre que la maman de Georges Moranier, disparu tragiquement, communique depuis l'au-delà avec sa mère, par écriture intuitive. Dans ce deuxième tome, c'est celui dont je vais vous parler et lire des passages, il nous présente 10 êtres spirituels qui, parvenus à une très grande évolution, racontent ce qui constituait leur vie sur le monde de la matière et expliquent ce qu'ils ont découvert dans le monde de l'esprit. Tous confessent leur erreur terrestre et décrivent l'émerveillement dans lequel ils vivent. Ils sont chargés de préparer les êtres terrestres aux données nouvelles que Georges, en sa qualité de physicien, c'était un physicien, nous apportera concernant l'immortalité de l'âme. La nature de Dieu est la fusion et future religion universelle. Et je poursuis toujours par un petit poème de Sully Prudhomme, Les yeux. Car les yeux, c'est important, vous savez, c'est aussi une partie où l'âme, justement, peut découvrir le monde dans lequel elle est descendue. Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux. Des yeux sans nombre ont vu l'aurore. Ils dorment au fond des tombeaux et le soleil se lève encore. Les nuits plus douces que les jours ont enchanté des yeux sans nombre. Les étoiles brillent toujours et les yeux se sont remplis d'ombre. Oh, qu'il ait perdu le regard, non, non, cela n'est pas possible. Ils se sont tournés quelque part vers ce que l'on nomme l'invisible. Et comme les astres penchants nous quittent, mais au ciel demeurent, les prunelles ont leur couchant. Mais il n'est pas vrai qu'elles meurent. Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux, ouverts à quelques immenses aurores, de l'autre côté des tombeaux, les yeux qu'on ferme voient encore. N'est-ce pas beau, Monsieur Sully Prudhomme ? Alors je commence l'avant-propos de ce livre qui s'appelle « Après cette vie » de Jeanne Moranier, on nous parle depuis l'autre monde. C'est avec joie que nous allons nous remettre au travail avec toi, maman, dit Georges. Nous n'avons pas tout dit, c'est évident. Il viendra de plus en plus de médiums pour expliquer au monde terrestre tout ce qu'il a à apprendre concernant notre vie. Malheureusement, parmi ces médiums, il se glissera des personnes imprudentes dont les interlocuteurs raconteront n'importe quoi pour gêner notre action. Ce sera à vous tous de savoir discerner ce qui est possible de ce qui ne l'est pas, à vous tous de savoir différencier le bon grain de l'ivraie. Soyez très prudents. Ayez toujours le jugement en alerte. L'action des êtres maléfiques est grande, tenace et perturbante. Elle a pour but de retarder l'apparition de la vérité en vous et le devoir et la joie de vous expliquer. J'ai mis toute mon âme au service de cette merveilleuse vérité. La servie, la survie de mon âme dans ce monde spirituel. Je sais que nous tous ici trouverons un grand bonheur à voir répandre ce magnifique message que la puissante force spirituelle, elle nous a chargé de transmettre, quelle que soit son appellation, son dogme, peu importe. Mais il y a un au-delà, ça c'est certain. Je sais que beaucoup d'êtres terrestres sont prêts à l'accepter et qu'ils seront de plus en plus nombreux, d'autres toujours aussi réticents à la reconnaître. Pour tous les autres, pour ceux qui refusent encore de nous croire, l'heure viendra aussi de se recueillir devant la découverte de cet amour universel qui nous est indispensable et nous dispense de la force cosmique qui nous dirige. Quelle puissance, quel amour et quelle joie elle déploie pour nous tous. Cela enfin nous guide vers le vide éternel qu'elle nous prépare, comme une mère aimante prépare ses enfants à assumer leur vie adulte. Car nous considérons cette force non pas tellement comme un Dieu tout-puissant, mais plutôt comme une mère attentive qui sait que tout ne sera pas facile. Ça va plaire aux dames si pointues sur le masculin et le féminin. Donc pour une fois, cette force serait peut-être féminine, pourquoi pas, et non masculine. Qui connaît l'influence du mal sur les natures faibles, mais qui, par un amour sans limite, saura nous aider à vaincre les difficultés inévitables ? Que les psychologues ne pensent pas que nous fassions tous dans un complexe d'Œdipe, non. Tout ceci n'est qu'une image adoptée d'ailleurs depuis longtemps par l'Orient et par les grands initiés. Je cherche surtout à expliquer l'immense amour qui se dégage de cette force et qui veut que tout soit amour là où nous vivons. Il y a eu pas mal de messies ou de prophètes qui ont fait cette mission importante à attirer l'attention tout simplement sur ce point essentiel. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Ici, dans le monde spirituel, c'est réalité. Sur la terre, hélas, ce n'est pas encore un beau rêve, mais ça viendra. Un rêve qui se réalisera un jour, très lointain c'est certain, un jour où les peuples auront trouvé leur équilibre, continuellement menacé pour encore longtemps, bien malheureusement peut-être, ça prendra fin et sûrement, mais lentement. Ne vous laissez pas influencer par ces esprits chagrins qui vous annoncent la fin du monde, sans doute en sont-ils eux-mêmes persuadés. C'est la seule excuse. Le monde ne mourra pas, ne vous inquiétez pas, ni à l'an 2000, ni à l'an 3000, ni à l'an 4000. N'écoutez pas, tout continuera à tourner, que ce soit l'ère du poisson, l'ère du Verseau. N'écoutez pas ces discours catastrophiques. Bien sûr, tout n'ira pas tout seul. Le monde a besoin, pour bien se diriger, des têtes solides et sûres. Elles sont rares. La majorité des êtres humains est plus faible et plus influençable que déterminée et responsable. Il y aura des erreurs chèrement payées, il y aura des catastrophes naturelles, comme toujours. Mais vous devez avancer sur ce chemin périlleux, la tête haute. N'ayez pas peur, toujours prêt à remplir la mission qui vous a été confiée, la vie. Si humble que soit une vie sur la terre, elle obéit à une volonté de la puissance céleste. Toute existence est conditionnée pour apporter quelque chose au mouvement d'évolution de la Terre et de l'astral. Cette évolution est double en effet. Celle de la Terre entraîne celle de l'astral et vice-versa. Le progrès matériel est nécessaire. Il conviendrait que les jeunes qui le rejettent prennent conscience de leurs erreurs. Le progrès technique a une contrepartie, car toute médaille a son revers. Il a entraîné un relâchement de la volonté, un laisser-aller pernicieux. L'homme a besoin de difficultés pour réagir. Et c'est d'ailleurs sur cette vérité qu'est basée l'évolution spirituelle. Avant de continuer ces belles pensées, nous allons faire une petite pause en compagnie du saxophoniste Gilad Asmon, « Mon amour ». Compagnie de Gilad Azmon, saxophoniste, avec une maîtrise quand même costaud, je vous avoue, parce que pour avoir fait un peu de saxo, je peux vous avouer que ces notes sorties sont d'une très grande maîtrise. Voilà, alors c'était Mon Amour. Nous continuons donc notre traversée après cette vie, n'est-ce pas, cette traversée philosophique quelque part, donc écrite par Jeanne Morani et induite par l'au-delà de son fils. Quand la difficulté s'efface, l'homme relâche son effort et s'enfonce dans la passivité au lieu de se diriger vers le mieux, c'est-à-dire vers le bien. N'oubliez pas les délices de Capoue. Cependant, rejeter l'évolution technique serait une grande erreur, car les découvertes à venir seront nécessaires à l'évolution générale. Il y a une contrepartie que notre siècle apporte par son évolution matérielle, l'éloignement des religions, de la foi. Il y a à cela deux raisons, me semble-t-il. La première, c'est que le cerveau humain, mieux éclairé, mieux nourri de connaissances, s'écarte des dogmes trop faibles, trop aléatoires, des conceptions théologiques actuelles. Nous y reviendrons, ce n'est pas là le plus grave. La plus dangereuse est la seconde, celle qui fait que l'homme, ne vivant plus dans la sombre misère d'autrefois, ni dans les guerres incessantes, du moins chez nous, croit pouvoir se passer de Dieu. L'Occident a atteint un tel degré de matérialisme, conséquence des progrès techniques, qu'il rejette l'idée d'un Dieu consolateur dont il pense n'avoir nul besoin. Or, l'homme est fait essentiellement de spiritualité. Et lui est confié la mission d'unir les progrès des techniques et de la science avec la connaissance de lui-même, c'est-à-dire de son essence divine. Tout cela peut être une osmose. Il y a là beaucoup à faire, et c'est notre rôle, à nous qui sommes de l'autre côté, d'informer le monde terrestre. Le moment est venu, plus que jamais, d'enrayer de tout notre pouvoir la vague de matérialisme et d'athéisme qui se répand sur les peuples à grand détriment, surtout des jeunes. Car la jeunesse, belle jeunesse, passe toujours par une phase d'idéalisme qui doit être constructive, qui ne doit pas s'écarter du chemin du possible, mais qui doit employer ses forces vives à modifier, à régénérer et non pas à détruire. Son refus du matérialisme athée ne doit pas la conduire vers le dangereux criminel qu'il exploite en invoquant une idéologie ridicule et fausse. Ce mal qui ronge le monde des jeunes doit être extirpé avec la plus grande vigilance, afin de sauver du chaos toute une génération qui se doit de participer à l'évolution du monde. Le besoin, l'idéal de la jeunesse, a bien d'autres moyens de s'affirmer. Il se détourne de son but quand il est dirigé sur une fausse voie, sur celle par exemple qui consiste à rejeter les lois établies dans une société. Rien ne peut se faire dans le désordre. Tout être jeune a le devoir de s'insérer dans le monde, des adultes même s'il n'est pas parfait à ses yeux. Aucune société ne peut être parfaite, mais s'en détourner mène à l'inutilité. Je suis tout à fait d'accord avec ceux qui pensent, jeunes et moins jeunes, que beaucoup de lois devraient être plus rigoureuses. On ne mène pas un État par la faiblesse et le laxisme, c'est certain. L'autocratie n'a pas plus de raison d'être dans nos pays évolués, mais la démocratie est difficile à conduire quand un peuple manque de discipline naturelle. Pour que le monde évolue vers le bien, il faut que les peuples soient conscients de leurs devoirs. Il leur faut comprendre que rien ne peut se faire sans ordre, sans discipline et sans une haute idée civique. Je ne prêche pas pour une vie ascétique. Il est normal et nécessaire à son équilibre que l'être humain ait des loisirs, des moments heureux, de détente. Tout est un juste équilibre des choses, tout est toujours dans le juste milieu. Les jeunes, encore moins que les adultes, ne devraient pas s'écarter de ce droit chemin. Il leur faut s'insérer dans la société qui est celle de leur siècle et siècle du mieux possible, avec ce qui leur a été donné pour remplir le rôle qui leur est confié par tous leurs aïeux, par tous leurs ancêtres. Le refus des contraintes est grave, car il est inévitable de rencontrer des obstacles et des difficultés. Le but de l'existence terrestre est justement de ne pas les rejeter, mais de les contourner pour les dominer. Vous reviendrez sur Terre jusqu'à ce que vous soyez capable de les affronter calmement et avec lucidité. Il est préférable d'y penser dès maintenant et de prendre le taureau par les cornes plutôt que de se livrer à la paresse, à la drogue, à la violence, à la marginalité. Car vous reviendrez pour faire vos preuves. Le monde a sérieusement besoin d'être repris en main. Les forces du mal, non pas Satan, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai prononcé. Mais tout ce qui fait les vices, la cruauté, les passions mauvaises solidement ancrées chez beaucoup d'êtres humains doivent être sévèrement reprises, réprimées, en soi même, sans être rentrées dans un dogme d'une grande dureté, mais, comme on dit, faire un peu rétrospection sur sa propre personnalité et sur son vécu, et savoir se remettre en cause pour reprendre le chemin d'une autre façon. Tant qu'un État ne saura pas sévir, la société ira à la dérive. Sans rentrer dans de l'extrême, mais c'est comme cela. Un peuple, c'est un peu comme un enfant. Car le mal est très contagieux. Nous espérons tous ici que cette vague de désordre cessera. Il en est temps. L'homme paie ses fautes dans sa vie suivante. Selon la loi du karma, rigoureusement établie, s'il les payait déjà sur la Terre, l'évolution du monde serait plus rapide. Et c'est bien cette évolution qui est le but de vos vies terrestres, car elle mène à une vie éternelle. Le besoin d'idéalisme des jeunes doit les conduire vers une amélioration, justement, de nos sociétés, et non pas vers sa destruction. Il ne faut pas tourner le dos au progrès et vivre à la chandelle. Il faut savoir bien se conduire, savoir faire un effort sur soi-même, comprendre que mener le monde vers le bien, c'est se donner entièrement à une tâche noble. C'est vouloir la régénération d'un monde en régression. Suite à cette belle phrase aussi, je vais faire une pause musicale, toujours en compagnie de Gilad Azmon et son orchestre The Orient House Ensemble, The Romantic Church. Voilà, c'était Gilad Asmon avec The Romantic Church. Alors, nous poursuivons toujours dans cet au-delà et cette communication avec cette maman qui a le pouvoir d'intercéder entre l'au-delà et la terre. Alors, comme je le répète, le besoin d'idéalisme des jeunes doit les conduire vers une amélioration de la société et non pas à sa destruction. C'est vouloir la régénération d'un monde en régression. Donc, nous comptons tous sur vos efforts, nous comptons tous sur une prise de conscience, comme disent les psychologues, non pas seulement de vous tous, mais aussi et surtout de vos dirigeants. Que les lois soient sévères pour réprimer le crime et vous aurez déjà fait un grand pas en avant. C'est le thème de cette saison, malheureusement, et de beaucoup de saisons qui ont traversé l'histoire de la criminalité, de toute façon. Il serait temps de temps en temps de pouvoir prendre de réelles décisions. Alors, donc Georges Moragnier demande à sa mère, qui est nullement de la voyance, mais de la médiumnité. Elle n'est pas non plus de mettre les lecteurs en communication avec leurs disparus, loin de là. Ce n'est pas, on ne peut pas décider de cela, car on ne sait pas ceux qui sont capables de pouvoir communiquer de l'au-delà. Donc si nous pouvions évidemment communiquer de suite avec nos chers disparus, ça se saurait. Mais non, c'est ceux qui sont là-haut qui sont les seuls à pouvoir savoir s'ils peuvent communiquer de l'autre côté du miroir, si je peux dire cela. Donc, de même que je n'ai pas le droit de dicter un message à quelqu'un d'autre que toi, de même tu ne dois pas empiéter sur le travail des autres et ne pas en faire un gagne-pain à part ces écritures que tu permets de connaître. Ils ont une mission à remplir, c'est inscrit dans leur destin. Nous avons besoin d'eux pour prouver l'existence d'un monde spirituel et de la survie immédiate de l'âme. Il leur est permis de gagner leur vie par ce moyen, dans la mesure où les prix qu'ils demandent sont raisonnables. Nous aidons beaucoup ceux qui sont en haute élévation spirituelle. Tu ne devras désormais communiquer qu'avec moi ou avec des êtres spirituels qui ont été choisis et que nous conduirons bientôt chez toi, n'est-ce pas? Et à cela, nous avons quelques personnages très très intéressants, comme par exemple Marcel N. Je suis très heureux, madame, et ancienne élève, de participer à l'ouvrage que vous avez entrepris. Je n'ai pas eu le plaisir de lire votre premier livre, car je viens tout juste de vous retrouver. Mais ne perdez pas l'occasion de le lire quand il sera édité. Vous savez que, Dieu merci, nous pouvons lire. Je suis Marcel N., votre ancien professeur de lycée d'Albert Soro à Hanoï. Que le temps a passé vite, que d'événements malheureux se sont succédés depuis cette heureuse époque où je professais dans ce magnifique pays. Je m'y plaisais énormément et j'y ai fait presque entièrement ma carrière d'enseignant. J'y suis resté jusqu'à la dernière limite et c'est un regret que j'ai dû quitter cette lointaine et si attachante contrée. Je connaissais à fond cette région du monde, m'étant intéressée de très près aux populations, surtout aux populations montagnardes si fidèles à la France et aujourd'hui bien malheureuses. Ainsi va la vie, ainsi va le monde. Tout ce qui commence a une fin, mais quand cette fin aboutit à un bain de sang, c'est le cœur déchiré que nous y assistons. Je suis donc, après tant d'années heureuse, passée dans ces contrées lointaines, revenue en Europe, en France exactement, puisque c'est notre mère patrie. J'avais réussi à sauver du désastre quelques autochtones encore très attachés à notre civilisation. Nous tous, les premiers représentants de la France, avons fait tout notre possible pour les diriger vers le sud, alors encore favorisés, hélas, pour peu de temps. Ou encore à les diriger directement sur la France, ce qui nous paraissait plus sûr, car nous ne nous faisions guère d'illusions sur la suite des événements. Je sais qu'il ne faut pas vivre de regrets, mais j'ai souvent et longuement pensé à ce peuple écrasé sous une domination inhumaine, abaissée, humiliée. Je ne ferai pas ici le procès d'un quelconque gouvernement, mais à ceux qui me répondront. Ces gens ont bien cherché ce qui leur arrive, je dis non, de toutes mes forces. Je ne cesserai jamais de communier en pensée avec les survivants de notre régime qui, eux, n'avaient rien demandé. J'enseignais donc depuis de nombreuses années à Hanoï. Vous avez été mon élève et je vous retrouve si peu changé. Mais non, ne vous en défendez pas. On dirait que le temps et les épreuves glissent sur vous sans laisser de traces. Et cependant, on vient de mettre au courant de ce que vous avez eu à endurer vous aussi par la perte de votre fils. C'est votre père qui m'a cherché il y a peu de temps, dans ce monde où je suis depuis déjà un bon moment. Nous nous étions bien connus en Indochine, votre père et moi. J'avoue que dans ma vie terrestre, je ne me suis guère occupée de médiumnité et de communication avec ceux qui nous appelions les disparus. J'avoue à ma grande honte que je ne croyais pas à la survie. Et cependant, j'étais là-bas au milieu d'un peuple très croyant, très fidèle à ses morts et très, très près d'eux. Je n'en avais pas été influencée car je considérais tout ceci comme des coutumes ancestrales teintées de fétichisme et de superstition. Je n'aurais jamais voulu les contredire ou les critiquer, mais je ne les suivais que pas sur un pas sur leur terrain. Voilà comment on se trompe, voilà comment on est sans excuse, à mon avis, de passer à côté de la question et de la réalité. Et quelle réalité ? J'en suis encore très agréablement surpris. Je me suis passionnée pour la philosophie très jeune et pour longtemps, mais je me suis égarée, attirée par les théories positivistes, les seules qui correspondaient à mon état d'esprit. Nous subissons, plus ou moins, les influences de l'extérieur, de notre temps, de notre milieu, qu'il soit familial ou social. Je suis d'une génération qui a connu l'anticléricanisme dans toute sa puissance, et sur des jeunes esprits, l'empreinte est difficile. Et facile à imposer, pardon. Nous assistons aujourd'hui à un retour vers la spiritualité, mais combien hésitant et maladroit. Et cependant, cette question de la vie spirituelle, après la disparition du corps, est tellement importante pour nous tous, vivants et soi-disant morts. Je vous fais à nouveau une pause musicale, toujours en compagnie de Gilad Asmon et Oe, qui s'appelle The Insentimental Mood. Thank you. Voilà, c'était Gilad Asmon et Zoé au piano qui interprétaient In a Sentiment Mood. Alors, nous, avant de nous quitter, nous allons conclure, du moins essayer, mais je vous invite vraiment à lire les différents livres de Jeanne Mouragnier, car elle en a écrit d'autres, car sa communication ne s'arrête pas qu'à son fils, comme vous pouvez le constater. Elle a écrit « Au seuil de la vérité »,« La mort est un réveil »,« La science et l'esprit »,« La totalité du réel »,« L'univers spirituel » et « Vers l'unité ». Voilà, c'est tout ce qu'elle aura écrit à l'édition Sorlo Lanor. Alors, nous sommes en compagnie de Maurice, ce professeur qui a professé à Hanoï et qui nous fait part de son ressenti de là-haut. Oui, c'est à la vie spirituelle qu'il importe de penser tout d'abord, se conduire en accord avec les préceptes, et souvent plutôt religieux, car il représente une sagesse établie depuis si longtemps, qu'elle correspond de toute évidence à une vérité. On m'objectera que la morale est variable selon le temps, selon le lieu. N'exagérons rien. Chacun sait et doit savoir qu'il n'est pas bon de tuer, qu'il n'est pas bon de céder à la cruauté. Cela me semble élémentaire. Et on a raison de dire que les philosophes ont tendance à couper les cheveux en quatre. Je sais de quoi je parle. La morale est comme la vérité. Elle est une et invisible. Qu'avons-nous fait depuis qu'un certain homme est venu nous demander de nous aimer les uns les autres ? Nous nous sommes entretués allègrement et sans pitié. Malheureusement, cette tare millénaire de la cruauté humaine est enracinée à tel point qu'il faudra vivre encore de nombreux siècles avec et avant de voir le monde pacifié. Je vois que cette idée vous surprend, oui. Parce que pensez-vous vraiment qu'un jour nous y parviendrons ? Eh oui, le monde, aussi étonnant que cela puisse paraître, doit y parvenir. Les planètes qui ont peut-être certaines avances, on ne sait jamais, dans d'autres galaxies, qui sait ? Ne vous croyez pas seul, y paraît-il, dans l'univers. Il y a beaucoup de progrès réalisés déjà. La science a un très grand travail à accomplir. La philosophie a aussi son mot à dire, car les hommes ne peuvent pas et ne doivent pas vivre uniquement pour le progrès matériel. Ce progrès a sa valeur, son utilité et son but. Ce serait une énorme erreur que de le méconnaître. Mais il faut penser aussi en essayant de ne pas s'égarer parmi toutes ces théories philosophiques diverses et contradictoires. Vous avez la chance et le mérite également de nous entendre et de pouvoir ainsi savoir exactement ce qu'il en est. L'homme est ainsi fait que tout le porte à tout combattre. Il est difficile de gouverner un peuple, il est encore plus difficile de lui faire partager une idée qu'il ne veut pas partager. Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Vous rencontrerez inévitablement de ces esprits qui se disent forts et qui nieront tout parce qu'ils ne voudront pas vous croire. Il est si simple de vouloir le néant et par conséquent l'absolution automatique de ses fautes, l'absence totale des conséquences de ses actes. Un monde uniquement créé de la matière et par la matière finirait ainsi dans le néant. Ce serait injuste. Mais voilà, le monde n'a pas qu'une face matérielle, il a aussi et surtout sa face spirituelle, celle d'où il est parti et d'où il va revenir et retourner. C'est ainsi. Alors nous allons ainsi conclure. Comme l'existence terrestre serait changée et plus supportable si tous les humains savaient qu'il ne faut pas pleurer les disparus, mais leur parler. Car ils entendent, comme s'ils étaient encore visibles à leurs yeux, comme leur vie serait adoucie s'ils savaient que nous sommes là avec eux, les regardant vivre, essayant de les guider, faisant pour eux mille fois plus que nous n'avions fait de notre vivant de terrestre, les aimant encore et encore davantage, car le monde spirituel, n'en doutez pas une seconde, n'est qu'amour. Évidemment, c'est indéniable, s'il n'y a que des âmes, ça ne peut être qu'amour. En voici la racine. J'aurais aimé donner mon nom en entier. Vous le connaissez, vous préférez plus de discrétion. Donc il vous reste, madame, qu'à vous remercier de votre gentillesse. Je suis heureux ainsi que vous puissiez communiquer et faire part de nos pensées et de notre existence spirituelle. Voilà, sur ces belles paroles, nous allons nous quitter. Et je vous dis donc de passer d'agréables vacances. J'espère que tout se passera bien pour vous. Prudence sur la route. Beaucoup d'échanges et d'amour en famille, entre amis. Et je vous dis à la rentrée, escapadien, escapadienne. I have a dream, a dream. I have a dream. My definition, my definition, my definition is this, my definition, my definition, my definition, my definition is this. I have a dream.